Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, pour vous accompagner pendant cette demi-heure, Rémi Réverchon et Jacques Monclar. Bonsoir messieurs.
Bonjour messieurs.
Salut Baptiste, salut coach.
Bonjour Baptiste, Rémi que j'ai déjà vu ce matin. Mais
on passe tout le temps, on passe notre vie ensemble Jacques Monclar, c'est beaucoup trop d'ailleurs.
Oui, je trouve aussi, mais je vous parlerai à votre maman.
Merci, c'est mal barré.
Bon, au menu cette semaine, on a décidé de faire le bilan du marché des transferts qui s'est terminé il y a un petit peu plus d'un mois avec la trade deadline. Qui sont les gagnants, les perdants? C'est toujours intéressant de voir ceux qui ont fait des bonnes affaires avant le début des playoffs qui commencent à approcher. Ensuite, on lancera un débat, non sans une pointe de nostalgie. Est-ce que c'est cette saison le début du déclin annoncé des légendes LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, qui dominent la ligue depuis une quinzaine d'années? Et puis on finira sur un petit point NCAA, avec le March Madness qui a commencé depuis la semaine dernière et qui rentre dans le Sweet 16. On fera un petit point. Allez, petit jingle et on démarre.
Il va shooter, il va shooter. Imaginable.
Un peu moins de deux mois, le timing nous est paru approprié pour tirer un premier bilan de la dernière période de transfert qui s'est conclue sans véritable tremblement de terre, il faut le dire, le 8 février dernier. Alors voilà, je me disais, je vous cite quelques équipes, messieurs, et puis vous me dites si c'est plutôt positif. Allez. Ou négatif. Bon, on commence par les Knicks. Coach, il y a eu quand même pas mal de transferts sur les derniers jours.
Ça a bougé.
Ouais, ça a bougé. Bien sûr que OG Anunoby a été un super coup, mais globalement, c'est le cœur de l'équipe qui a continué à fonctionner. C'est pas Hartenstein, c'est pas un nouveau. Non, je trouve que les Knicks, là, ils sont pas. Enfin, ils ont trouvé du recrutement à l'intérieur de leur équipe, hein, parce que Miles McBride, personne n'attendait à ce niveau-là, à part sans doute Tom Thibodeau et lui-même. Voilà, non, les Knicks, c'est une équipe dont le collectif prime surtout autour d'individus, certes. Et d'un individu, Jalen Brunson, dont on débattra peut-être dans les semaines à venir de sa position dans le 5 All-NBA. Moi, perso, je suis borderline de le mettre premier ou deuxième. Voilà.
Il y en a un autre qui...
Premier, ce serait pas un scandale. Et deuxième, même s'il y a Doncic et SGA qui mettent la barre très haut, il est dans le deuxième 5, à mon avis, All-NBA.
Sur cette équipe des Knicks, toujours
ouais, on avait l'interrogation Bogdanovic, qui semblait être une belle pioche et qui...
C'est vrai, t'as raison, je suis assez d'accord, qui au final est un trade assez incolore, inodore un petit peu, les venues d'Alec Burks et de Bojan Bogdanovic, qu'on annonçait oui, comme un gros plus, un vétéran réputé, fort shooter, l'expérience de Bogdanovic, c'est vrai qu'il tarde à se montrer dans ce roster, où il joue peu hein, finalement,
ouais, mais
il joue sa dizaine, douzaine de minutes.
Il est obligé de jouer en 4.
Oui.
Tu sais, c'est pas facile, Rémi, de passer de 30 minutes de temps de jeu à 17. Burks a plus performé que lui. Bogdanovic, il met pas dedans en ce moment. Mais ça reste Bogdanovic et il vaut mieux avoir lui sur le banc que d'autres.
Oui, ça c'est vrai.
Ça c'est toujours un peu tôt, mais...
Voilà, ouais.
Mais c'est une équipe qui a... C'est vrai que c'est marrant dans ce que tu dis, Jacques, et t'as raison que l'équipe, au final, a pas été bouleversée par cette trade deadline. C'est une équipe qui est forte cette année, qui est très forte même, qui montre plein de belles choses, et qui a fait des très gros changements, moi je trouve. Ils ont quand même fait une croix sur RJ Barrett,
c'est ça.
C'était un projet depuis longtemps, et Emmanuel Quickly, qui, pour des raisons contractuelles, ils ont laissé filer. Mais tu dis que c'est un bouleversement dans l'équipe, quand même. Et puis, au final, ça a pas bouleversé cette équipe du tout. Anunoby, qui même est blessé dernièrement, mais qui est un plus évident, va faire du bien à cette équipe, c'est une évidence. Écoute, ça reste positif.
Les Knicks perdent Mitchell Robinson, tout le monde s'affole et tout. Hartenstein performe, Hartenstein est blessé, Randle se blesse, Hartenstein revient et Precious Achiuwa qui est aussi arrivé. Il a largement, enfin je sais pas si c'est son cœur de New-Yorkais, mais les mecs ils performent parce que je dirais que c'est, si on est discipliné et volontaire, c'est un peu comme à Miami. T'arrives là-bas, tu te refais la cerise. Bogdanovic, je suis pas loin de penser, je vais peut-être être un peu sévère pour sa franchise précédente qui me fatigue un peu en ce moment. Enfin, le coach de cette franchise, parce que la franchise est belle. Il ils rejouent au basket, quoi. Ils rejouent au basket, les mecs, à Miami, à New York, en ce moment, ils rejouent au basket. Mm. Je parlais de Monty Williams, hein. Bah, je suis pas du tout apprécié, on l'a pas traité dans l'émission. Ok, il a joué à New York, hein.
Monty Williams?
Je crois. Non, je faudra vérifier, okay. Faudra vérifier. Je crois que... t'as pas à dire ça, enfin bon, t'as pas à dire ça. Et la réponse de Josh Hart, elle est impeccable.
Oui, voilà. Cette espèce de rivalité toute neuve, là.
Ouais, mais je crois qu'en plus, bon, c'est... il peut être frustré de la performance de ses joueurs, il peut être frustré. Quand un mec joue des records, tout le monde joue des records. Moi, je vois que Sabonis, il a tapé le record des doubles-doubles. Oui. On le remet alors qu'il y a plus 25 ou moins 25, juste pour qu'il fasse des stats.
Oui, puis j'y a fait un paquet de fois à chercher ses 30 points alors qu'on n'avait pas besoin. Oui, oui, t'as raison, bien sûr.
Donc, ça va.
Quelles autres équipes, peut-être Dallas? On dit souvent Dallas, que Dallas s'est renforcé.
C'est la vraie question. Enfin, Rémi,
oui,
moi, j'ai
envie du très court terme.
Est-ce que... Ah bien ça, je m'en fous, moi.
Oui. Il faut qu'il gagne
avec
eux, de toute
façon. Est-ce que Dallas peut aller au final NBA avec leur restructuration? C'est ça, la question.
En tout cas, c'est l'équipe qui a le plus bougé. Si ton thème de départ dans le podcast du jour, ça. Baptiste, c'est ça, c'est d'évaluer la trade deadline un mois après. Ce qui est marrant, c'est qu'avec le recul, on se rend compte qu'au final, cette trade deadline, elle est, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est un peu inodore, incolore, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de grand bouleversement. J'ai vu plein de trades qui, au final, pourtant, moi, ça me fait mal au cœur, mais Gordon Hayward à OKC, ça change pas grand-chose.
Dinwiddie, dans le contexte sans LeBron, aux Lakers d'être positif, et Anthony Davis bien sûr, d'être positif pour la première fois de la carrière de LeBron, son équipe est positive sans lui.
Oui, ça c'est vrai.
6-4.
Ça c'est vrai. Il y a eu Terry Rozier à Miami, il y a des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de bouleversement. Dallas, pour le coup, c'est un bouleversement. Ouais. Dallas, ils ont reformé leur raquette quasi entièrement, à part le rookie, à part Lively, évidemment. Mais ils sont séparés de Grant Williams, ils font venir PJ Washington, Gafford, c'est un positif évident, on est tous d'accord que c'est un upgrade. Et en ce moment, ils gagnent des matchs. Là, pour le coup,
Rémi, mais pour compléter, ils changent des statuts. Hardaway devient joueur de banc. Pour l'instant, Kleber reste dans le 5, mais la question se pose. Voilà, il y a une équipe qui est en train de naître. Est-ce qu'elle est capable de faire une finale de conférence comme elle a fait il y a deux ans
Deux ans maintenant, je crois.
L'année de Boston, l'année de Boston et les Warriors. Côté,
oui.
2022. La question se pose.
C'est l'objectif pour une équipe, de toute façon, qui a Doncic. Ils étaient obligés d'agir, puisque c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que quand t'as Luka Doncic dans ton équipe, t'es obligé de jouer pour le titre. Tu peux pas faire autrement. Le drame de l'année dernière de rater les playoffs a mis la pression terrible sur Nico Harrison, le GM, pour faire quelque chose. Ils sont aperçus, et ça, moi, je leur donne du crédit là-dessus, ils sont aperçus en début d'année que ça fonctionnait pas. Grant Williams, ça marchait pas, la raquette était trop faible, et les mecs ont agi dans l'urgence. Et parfois, quand tu agis dans l'urgence, tu fais des conneries. Là, ils ont tenté un truc qui, pour l'instant, prend. Alors, le juge de paix, Jacques a raison, ce sera les playoffs, on verra. Mais ils ont tenté un truc. Aujourd'hui, tu es obligé de leur donner du crédit, puisque c'est mieux aujourd'hui que ça l'était en novembre-décembre.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément très sexy de base, mais c'est intelligent.
Gafford et Lively, il faudrait que vous fassiez la moyenne, mais je pense que ça fait 20 points, 15 rebonds par match. Ouais. Donc pour un poste 5, c'est un bon rendement. Ouais. C'est un bon rendement. PJ Washington est un joueur qui peut être irrégulier en adresse, mais qui dans l'opposition apporte des choses. Il y a quand même le cœur de cette équipe avec les Kleber, Hardaway, des mecs comme ça qui servent. Derrick Jones aussi. Il est bien là, Derrick Jones, où je dis nanerie.
Non, il est bien là.
Et puis les deux artistes.
Mais il leur fallait du monde dans la raquette.
Et c'est pas facile de jouer des rôles à ce poste-là, à ce jeu-là. C'est pas facile. C'est la grande force des Knicks. C'est la grande force de Boston, où je vois Pritchard à un niveau incroyable. L'addition, pareil, je suis un peu déçu, moi, de ce qu'ils ont ajouté Boston avec Tillman.
Oui. Voilà. Ça change pas grand-chose.
Phoenix aurait dû bouger aussi, prendre un vrai meneur. Parce que, pour moi, Bradley Beal et Booker, je vais pas dire qu'il y a incompatibilité, parce que les mecs s'entendent très bien, sans doute. Mais dans le jeu, c'est compliqué. C'est compliqué. Avoir deux mecs aussi scoreurs, qui ont les mêmes endroits, un peu le même jeu, quelque part, c'est gênant, voilà.
Philly aussi, qui prend Buddy Hill, on se demande...
Et Kyle Lowry, pour la... Voilà. Mais qui leur sert bien en ce moment, pour gratter des matchs de voleurs.
Mais qui sont masqués par l'absence d'Embiid, de toute façon, donc au final, on a du mal à évaluer ça.
Le truc marquant, quand même, qui est en train de s'installer, et quand il est bon, il gagne, et il joue moins un basket de falabrac, c'est Pascal Siakam.
Si je voulais en venir, voilà, Indiana.
Pascal Siakam à Indiana, là, ça fait quelques matchs qu'il performe très très fort. Il prend l'équipe sur ses épaules. Haliburton était moins bien. Il reste toujours irrégulier, même si l'autre jour, il a pris une crise à 3 points. Voilà, mais Siakam, Rémi...
C'est surtout gage d'avenir, je pense, pour cette équipe-là. Je pense qu'ils ont leur structure. On en parlait avec Jacques, on a eu la chance de rencontrer 2-3 mecs là-bas, Indianapolis, pendant l'All-Star Weekend. Miles Turner qui nous a offert une discussion très sympa. Et je pense qu'il y a vraiment, pour les fans des Pacers, des motifs d'espoir pour l'avenir. Moi, j'y crois, cette équipe, dans les 2 ans qui viennent, je crois que ça peut devenir un contender.
Cette année, ce sera...
Pas pour cette année, c'est court. Mais tu vois, tu as des cycles qui se font. Milwaukee, on peut se poser des questions. Si ça se passe mal en play-off cette année, je ne sais pas trop. Bon, voilà, Philly, les blessures d'Embiid à répétition. Je ne sais pas. Je pense qu'Indiana, vraiment, dans les 2 ans qui viennent, aura une carte à jouer.
Et Buddy Hield, justement, c'est quand même une perte aussi pour Indiana.
Non.
Ouais, je suis
avec Mathurin, peut-être que...
Non, Mathurin, il joue pas, là.
Mais
avec Neymar, avec TJ McConnell, qui peut donner des minutes, et il y en a un autre, là, celui qui a les moustaches, Shepard. Ils ont largement de quoi... Non, c'est pas... Buddy Hield, okay. C'est un super joueur, on l'adore. Le Chavano Régnier Hield. Mm. Dit Buddy, et son nom de chien. Mais... Regarde, c'est un shooter à risque.
Ils en ont.
C'est sa vie. Sacramento respire pas mal depuis qu'il y est plus. Oui. Hein, aussi,
Non, je suis pas sûr que ça fasse partie d'une pièce. C'est pas une pièce maîtresse pour une construction d'avenir.
Non, il y a ce qui est étonnant dans la trade deadline. Et maintenant, on se rend compte sur le marché qu'il n'y a pas de précipitation. Des gens voulaient que les Spurs recrutent. Toujours, il y a des gens qui voudraient que les Spurs jouent le titre en 6 mois. C'est pas dans l'état d'esprit, parce qu'il faut pas non plus que, par exemple, Victor arrive en play-off, en finale de conférence, sans être tout à fait prêt. LeBron n'était pas prêt en 2007, finalement.
Pourtant, ça faisait déjà 4 ans.
Et ça faisait 4 ans, ouais. C'est pour donner les repères. Michael était à peu près prêt, lui, quand il y est arrivé, puisqu'il n'en a pas perdu.
Il a gagné, hein.
Eh oui, plus longtemps, 7 ans. Mais des joueurs d'impact, il y a des blessures qu'on générait. Memphis a inventé des joueurs, là, depuis la trade deadline, les Gigi Jackson et compagnie. Il y a des joueurs qui profitent de cette période. On peut parler aussi, parce qu'on a un Français qui a été bougé, c'est Evan Fournier. Bon, il a des minutes qui sont irrégulières, mais elles sont en début de match. Donc, quand il est bon, il a tendance à rester. Il a mis 15 points au Garden, la défense était plus contestable, mais on est content qu'il joue, il faut qu'il reste dans le truc, et voilà, c'est pas facile pour lui, et le niveau NBA est impitoyable, donc voilà le petit Rupert, lui, il profite des essais de fin de saison, et c'est bien, il le fait bien.
On a fait le tour. On parlait de LeBron justement, plus le temps passe, plus ça devient inévitable. Il faut bien se mettre à l'évidence, le monde sans LeBron, Kevin Durant et Stephen Curry approche à grands pas. Alors normalement il devrait être encore là la saison prochaine, heureusement.
Oui, oui, oui.
mais ça fait quand même depuis plus de 15 ans qu'ils sont là. Qui trustent les titres.
Et les finales.
Ouais.
Nous, on a fait combien ? 4 finales de suite, Cleveland.
5, non ?
5 ?
5 Warriors, Cavs d'affilée.
Non, c'est 5 Warriors.
5 avec 2022, oui, t'as raison. 5 Warriors avec Toronto.
Avec Toronto.
Ouais, et 4 fois contre les Cavs.
Et le même, la même.
Ouais.
Bien sûr qu'ils dominaient. Maintenant, ils sont plus
est-ce
capables.
Est-ce que c'est le déclin ?
Bah évidemment, mais ce déclin-là, les gens qui aiment le sport vont piger ce que je veux dire. Je pense qu'on a annoncé pendant 10 ans le déclin de Rafael Nadal et de Roger Federer. Eux, c'est un peu la même histoire, parce que le déclin de Steph Curry, il a été annoncé avant le titre de 2022. Le déclin de LeBron, il est annoncé depuis un certain temps. Et KD, les blessures font naturellement le déclin aussi. Voilà. Et quelque part, il a pris une décision basket. Abominable en quittant la baie de San Francisco.
Et en n'allant pas chez les Knicks.
Alors là, double peine.
Voilà.
Mais sa carrière s'en est largement ressentie. Largement ressentie. Après, c'est la première année où LeBron James... Donc, les Lakers ont joué 10 matchs sans lui, ils en ont gagné 6. Steph Curry a beau être très bon jusqu'à All-Star Game, excellent jusqu'au All-Star Game... Les Warriors, ils sont dans la panade. On rajoute qu'on pourrait presque mettre Klay Thompson, Draymond Green dans cette génération-là qui dominait, parce qu'ils dominaient en gagnant des titres. Et il a fallu que Tatum devienne évanescent pour que Boston ne gagne pas en 2022. Quand on y repense, c'est le... Voilà. LeBron, il y a dans son équipe des joueurs qui, quand il n'est pas là, performent. Est-ce qu'ils sont capables de performer jusqu'à gagner des titres ? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont besoin de LeBron pour éventuellement retourner en finale de conférence, au moins comme l'année dernière ? Je pense, mais je ne pense pas que LeBron puisse être maintenant considéré comme une base d'équipe, sauf sur un one-shot d'une saison. Et quand j'entendais les rumeurs de re-signer 2 ou 3 ans à 60 millions par an, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà, quant à Steph Curry, physiquement, ça n'a jamais été un monstre, mais il a toujours fait courir tout le monde. Et les joueurs comme lui, comme LeBron, comme Kevin Durant, quand ils font des saisons, elles ne s'arrêtent pas le 15 avril. Elles vont jusqu'au 20 juin. Et chaque année, ça vous tire dessus. Ça n'a rien à voir d'être, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui s'arrêtent à la fin de saison régulière, que d'être un mec qui va jusqu'au mois de juin. Les voyages, la pression, la concentration, le physique.
Bien sûr. C'est une ligue de visages, la NBA. Elle a c'est pour ça qu'on aime ça, parce qu'elle a cette capacité à toujours avoir des visages à mettre en avant. Et tu as raison que les noms que tu cites là, LeBron, KD, Steph Curry, évidemment, nous, on est bercés par ces mecs-là depuis 15 piges. C'est un long règne dans le sport d'avoir pendant 15 piges les mêmes mecs. Alors, tu as eu la fin de Kobe dans les 15 ans, tu as eu des choses quand même. Mais,
la fin des Spurs.
La fin des Spurs aussi, bien sûr, qui ont été là-dedans. Mais LeBron, clairement, est le visage de la NBA depuis 15 ans. Steph Curry, il l'est depuis une dizaine d'années. Puis le 10 ans, en 2014, leur premier titre, en plus. 2015, le premier titre. Et Kevin Durant a traversé ces générations-là. Et forcé de constater que, malgré les perfs de ces mecs-là qui sont encore surréalistes, et je pense en particulier à LeBron James, qui tourne, je ne sais même pas, 27, 28 points, je n'ai même pas regardé, mais qui est encore sur un niveau surnaturel. Et ben on est obligé de constater qu'on est à l'aube d'une génération. Et alors, moi, j'y vois rien d'inquiétant, parce que la NBA a cette capacité à se renouveler. Il y a 37 autres visages qui attendent derrière pour prendre la relève. Et cette ligue est entre de bonnes mains, j'en doute pas. Mais il y a un peu de nostalgie, parce qu'on est obligé de reconnaître que ces années LeBron, il est tellement fort qu'on a tous envie de croire que l'année prochaine, il sera encore très très fort, ok ? Mais l'année d'après, s'il va encore jouer.
Mais la mécanique queen un peu, voilà, au niveau de cette cheville.
Et comme dit Jacques, moi, ce que je vois de Steph Curry depuis l'All-Star Break, alors oui, dans les highlights, quand vous regardez, il met des shoots à 9 mètres, c'est incroyable, et il en mettra toute sa vie. Je pense qu'à 60 ans, il en mettra encore des shoots à 9 mètres. Mais la réalité, c'est que sur une durée de match, il n'est plus aussi performant en ce moment, parce que physiquement, il est sans doute cramé.
Il y a des athlètes, par exemple, un marathonien, c'est pas son âge, c'est le nombre de marathons. Un décathlète, c'est pareil, il arrive un moment où c'est pas la date de péremption d'un yaourt, mais il y a un côté un peu comme ça de « je fais plus la différence tout seul », ça empêche pas. Oscar Robertson a gagné son premier titre à la fin avec Karim Abdul-Jabbar à l'époque. Oui, Karim Abdul-Jabbar. Voilà, LeBron, ce qu'il fait à 39, 40 ans, c'est insensé. Les perfs de Curry, elles restent magnifiques, mais ils ne sont plus absolus. Ce n'est plus létal. Et quand en plus autour d'eux, ça a vieilli aussi. Curry, etc.
C'est les Warriors le meilleur exemple, bien sûr. Parce que les Lakers, encore, ils essayent de renouveler un peu ça. Mais oui, il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est la loi de l'univers, en fait. Il y a un renouvellement permanent des choses. On n'est pas éternels, nous non plus. Ils ne le sont pas, eux non plus. Et il va falloir accepter que cette ligue, dans 2-3 ans, quand il n'y aura plus... Parce que dans 2-3 ans, il n'y aura plus Steph Curry, il n'y aura plus LeBron James... probablement plus Kevin Durant, il y aura Giannis Antetokounmpo, il y aura Nikola Jokic.
Toujours Embiid.
Peut-être. Et puis dans 5-7 ans...
Mais ce sont des internationaux, ce qui au niveau image de la Ligue est différent. C'est là où il va falloir que la génération... Alors il y a l'épiphénomène Ja Morant, qui est un des visages de cette Ligue.
Qui était censé le devenir, en tout cas.
En tout cas, qui était censé le devenir.
Il y a d'autres mecs, Edwards.
Anthony Edwards, ça a bien repris le flambeau. La génération Karl-Anthony Towns, Anthony Davis, n'a jamais eu l'impact de la génération d'avant.
Et sans doute pas celui de la génération d'après dont on vient de parler là.
Voilà, parce que LeBron autour de lui, c'est D-Wade, c'est toute la bande, Chris Bosh, c'est le banana boat.
Et s'il devait y en avoir qu'un qui pourrait, selon vous, reprendre le flambeau comme il se doit.
Oui,
il n'y en aura pas qu'un.
Il n'y aura pas LeBron ou Michael Jordan.
Aujourd'hui, alors le seul auquel on peut penser, mais c'est pas pour la génération d'après, c'est pour celle d'encore après, c'est Victor.
C'est Victor.
On peut penser à Victor dans ce registre-là. Mais dans les générations qui viennent, les noms qu'on t'a cités là, bah, Jokic, ce sera pas le visage de la Ligue à lui tout seul.
Doncic
a potentiel pouvoir.
Oui. Il n'y a pas de ricain, je cherche en même temps ricain.
Bah, le premier auquel on va penser, mais ça arrive dans longtemps, c'est Anthony Edwards. Et il a du chemin avant d'en arriver à ça. Pas évident.
Ouais. Et Tatum et Booker qui pouvaient peut-être...
Qui sont d'énormes joueurs. Tatum peut-être plus que Booker, j'ai l'impression. Mais posséder la Ligue comme la possède Steph Curry ou LeBron James... Ah bah non, Tatum, moi je l'adore, mais il a pas cette étoffe-là.
Et puis Tatum, il faut être très très grand. Il faut être comme Magic, comme Karim... comme Kobe, pour le Shaq, pour mettre une franchise derrière toi, ta personnalité. Et quand t'es à Boston...
Et c'est ça.
Et puis on va être honnête, là, Tatum n'est pas un mec qui a un charisme débordant non plus.
Non.
Voilà. Il n'a pas ce leadership inné en lui qu'a LeBron James, tu vois, il n'a pas ça.
Enfin, ceci dit, à Boston, globalement, la franchise, ils avalent pas un clown tous les matins. Hein, donc, c'est pas
c'est
la.
Clarie Bird n'était pas non plus.
C'est pas l'ambiance civilisation Green Nation avec tout. Et j'adore cet endroit et cette franchise.
Et on serait ravis d'y retourner en juin si jamais ça doit être le cas.
Oui, bien évidemment.
Et puis les trois ont révolutionné.
Les Red Sox ont gagné hier, je surveille.
C'est vrai, surveille du coup. Voilà, tu vois, Jacques, il était au courant.
Il y a des matchs la première semaine.
Parfait. Bon. C'est vrai, t'as regardé. Il a regardé le calendrier, c'est génial. J'en étais sûr que c'était vrai.
On vous dit pas qui est le favori selon Jacques pour les finales à l'Est.
Bon, a priori, c'est le favori de tout le monde, hein, j'imagine, évidemment. En tout cas.
Ce serait une énorme surprise.
Juste pour terminer.
Ça peut arriver. Hein.
Sur le sujet, je me faisais la réflexion quand même que ces trois-là devraient quand même être au JO cet été. Et que sans eux, Team USA, est-ce qu'ils seraient vraiment autant favoris qu'ils le seront avec eux? C'est là où on voit quand même que
alors,
ces trois-là...
Ils le seront, quoi qu'il arrive, Baptiste, favoris le seront.
Non mais l'exemple du champion du monde sans eux montre que...
Oui, non mais il n'y avait pas qu'eux. Il manquait beaucoup. Y avait, dans la liste, si tu fais les meilleurs joueurs, tu es descendu bas dans la liste quand tu arrives au championnat du monde quand même.
Si tu enlèves que LeBron, Curry et KD, tu restes quand même difficile à jouer.
Ok.
Maintenant, si tu les mets qu'eux avec une bande de pimpins, ça va plus souffrir parce qu'il y a la répétition. Même si cette année, le tournoi olympique, ça n'est que 6 matchs. Donc, par contre... Il faut pas faire la sieste, mais ils joueront que le soir. Mais il faut surtout bien entamer les matchs en FIBA. C'est important de mettre les chaînes tout de suite. Il va falloir, par exemple, les Ricains, c'est difficile. Il y a un truc qui est difficile pour toutes les équipes américaines. Alors on dit, ils viennent 3 heures avant s'échauffer. C'est vrai, certains, c'est vrai. Ils font des routines magnifiques. Je m'en régale depuis 15 piges. Mais à l'inverse, au début du match, c'est pas la guerre. Alors que la FIBA, chaque possession compte. C'est la grosse, pour moi, la plus grosse différence.
Mais avec des joueurs comme ça, on peut imaginer qu'ils,
mais
qu'ils sont sérieux du début à la fin.
Ouais, mais c'est les plus âgés, ils auront parfois peut-être, je veux dire, LeBron, jouer tous les 2 jours en FIBA. Ils ont l'impression de jouer dans une cage, le terrain est un peu plus petit, les règles font que, ça va moins vite, c'est plus sifflé, on va leur siffler des marchés quand même à force. Enfin bref, tout un tas de choses qu'il faut pour se mettre en rythme, et un joueur NBA n'est jamais aussi fort que quand il est en rythme, ils ont besoin de temps. Alors, il vaudra mieux qu'il s'échauffe un peu.
On verra ça. On passe d'une compétition à l'autre, des JO à la NCAA, qui a donc commencé la semaine dernière avec le March Madness. On débute le Sweet 16, qui est donc...
Les huitièmes de finale.
Les huitièmes de finale, en gros, voilà.
C'est ça, les 16 meilleures équipes.
Il faut en gagner 2 pour aller au Final Four.
Voilà. Ce week-end, ça marche par week-end, t'as le Sweet 16, puis l'Elite 8.
4 pour être champion, il n'y a pas de 3e chez eux, je crois.
Non, ils font pas ça, ils s'en foutent. Il n'y a pas de 3e place. Non.
Et donc, c'est parti sur les chapeaux de roue avec l'élimination de Kentucky, mais on va peut-être du coup revoir avec vous qui sont pour vous les favoris. Rémi, vas-y, toi qui...
Alors, déjà, c'est pour moi le meilleur moment de cette saison NCAA. March Madness, on connaît tous maintenant, on aime tout ça. Le premier week-end est adorable parce que t'as les matchs qui s'enchaînent, t'as les surprises, c'est les premiers jours de Roland-Garros où tu passes d'un match à l'autre, c'est cool. Mais quand tu arrives au Sweet 16, tu arrives au vrai haut niveau de compétition et tu as quand même plein de matchs. Et tu peux avoir des surprises. Donc pour moi, c'est le meilleur week-end de NCAA, le Sweet 16 Elite 8. Sur Bean, donc nous, sur le Sweet 16, on va suivre deux affiches qui seront très cool. On va suivre un remake de la saison passée qui sera San Diego State, de la finale de la saison passée. San Diego State contre UConn.
C'est ça.
Champion en titre, ça sera jeudi.
À
soir,
minuit 40.
Et vendredi matin pour ceux qui veulent à 9h15 en français. Et vendredi soir et samedi matin à 9h15, on suivra Houston qui, pour moi, serait peut-être le favori de cette année face à Duke. Fact mythique, mais qui ne sera pas favori de cette année. Donc là, il y a deux trucs sympas. Il y a UConn qui a l'opportunité de réaliser ce qu'on appelle un repeat, un back-to-back, qui est rarissime à l'échelle universitaire.
Ça date de Joachim, je crois que ça date des 14.
Exact. Florida, 2006-2007
2007.
Il y a 17 ans. Voilà. Joachim Noah et les Gators qui avaient fait ça en
Alan
effet.
Alan Ford, Corey Brewer.
Torian Breen, Corey Brewer, tout ça, ces mecs-là. Hein.
Et Billy Donovan.
Et Billy Donovan, le coach des Bulls aujourd'hui, qui était là à l'époque. Et donc, ils ont l'occasion de faire ça. Mais pour ça, il faut déjà passer face à cette équipe de San Diego State, qui est la fac historique de Kawhi Leonard, qui a un big man qui est très très fort. Jaden Ledy, qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on va surveiller ça. Le lendemain, Houston contre Duke. Ça sera l'occasion aussi de voir les derniers gros prospects pour la draft, voir les cotes monter et descendre. Tennessee va jouer ce week-end. Il y a un mec à Tennessee qui s'appelle Dalton Connect, qui est un transfert. Jacques Monclar de Northern Colorado, qui avait commencé là-bas.
Il a quitté l'ours.
Il a tout explosé là-bas. Il était clairement beaucoup trop fort pour cette fac et il a été pris par Tennessee. Il est en train de tout cartonner, meilleur marqueur de cette saison. Donc on va surveiller ça. Top 7-8 de la prochaine draft. Ouais. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu tout ça et c'est un week-end qui est plein de charme parce que moi je trouve qu'il y a du romantisme dans cette March Madness de voir ces mecs tellement passionnés. Parfois, on se plaint du manque de passion dans la saison régulière NBA. Là, t'en as de la passion. Voir les mecs effondrer sur un tir à la fin d'un match, bah, c'est un peu pour ça qu'on aime le basket.
La March Madness, c'est que des matchs 7. Tu fais toute une série sur un match. Il y a des gamins qui voient leur vie qui s'arrête. En tout cas, il va falloir changer de mode instantanément. Moi, cette année, j'ai envie presque que UConn fasse le doublé. Ouais. Et je vais aller plus loin.
Ah!
Garçons et filles, pourquoi pas.
Ils peuvent le faire ?
Ils peuvent le faire, parce que les filles, on en dira peut-être un petit mot, c'est rigolo aussi cette année avec l'attraction Caitlin Clark, Juju Watkins, UConn qui joue bien au ballon. Enfin bref, et puis je trouve, j'ai beaucoup aimé la manière dont Gonzaga joue. Je trouve que le Gonzaga Purdue va être aussi une rencontre magnifique.
Nous, on a un petit coup de cœur pour ça parce qu'on a eu la chance au week-end All-Star d'aller voir Purdue jouer dans leur salle.
J'ai été franc.
Vous êtes fan, Houston,
il y a un petit truc. Houston, je suis pas persuadé. Il y a le Cryer qui est un très très bon
joueur.
Ils
ont Jamal Shedd qui est un arrière, la très scoreur.
Et puis
fort.
Un gars qui s'appelle Cryer aussi, un ailier.
Il faut que j'aille refouiller là-dedans.
Bref, je me souviens plus de tous les noms. En tout cas, je fais aucun effort. Le truc, je trouve quand même, c'est que cette année, dans une draft aussi bizarre, qui nous attend là, très très bizarre, il y a des joueurs qui peuvent avancer. Je pense vraiment à Heidi, le Canadien de Purdue,
qui peut avancer.
Qui va jouer gros, lui, dans l'individu, ça. Et puis, moi, j'ai envie de finir, donc je vous ai dit, UConn doublé, filles-garçon, comme ça, c'est plus pratique, ils fêteront ensemble. Et puis je voudrais féliciter Paris et Bourque et Paris, les deux coachs, les présidents, les fans, tout le monde, les joueurs bien sûr. Et je me dis que le niveau universitaire, quand on voit des matchs de demi-finale de Coupe d'Europe, le rendement de Zachary pendant 3 minutes où il prend feu, hier 5 minutes où il se prend en main, alors qu'il était un peu dans le dur, il fait des choses magnifiques. Le petit Nadir qui progresse à ce niveau-là, je veux dire, c'est un bel apprentissage aussi cette March Madness-là. Et quand je vois le niveau universitaire, alors il y a des bons joueurs, mais pas que, hein. Pas que.
Très inégal. Mais t'as raison, Jacques a raison. Il faut les féliciter. Et on a envie de voir ces deux clubs en finale. Moi, j'ai eu la chance. J'étais hier soir au match, le match 1 face à Paris. Face à Londres. Ils leur ont marché dessus en deuxième mi-temps. C'était un régal.
Défoncé.
Couplé. La deuxième mi-temps, ils n'ont pas existé. Ouais. Pourtant, c'est une belle équipe. Hein. Londres, ils ont Sam Decker qu'on a bien connu. Ils ont Matt Morgan qui était en France au Mans, qui était incroyable. David Nwaba, tu te souviens de David Nwaba, qui a fait une belle carrière NBA. Ils leur ont marché dessus. Et respect à ces deux équipes parce que avoir deux clubs français à un match d'une finale d'Eurocup. Moi, j'ai pas grandi avec des résultats pareils dans le basket français.
Et au match retour, et éventuellement le match d'appui à domicile, donc là, ce sera aussi une possibilité. Au match retour, ça soufflera sans doute un petit peu plus dans le semi-Ardennes Dome pas Semih-Erden, Sinan Erden.
Sinan Erden Dome, ouais.
Et Erden Dome à Istanbul qu'à Londres, même si à Londres il y aura de l'ambiance, je sais pas où il joue, mais ça sera pas pareil. À Istanbul, ça Beşiktaş en plus, qui est un gros club.
Vendredi, les matchs retour. Hein.
Ouais, ça va être mignon. Bravo à tout le monde qui continue.
On va suivre ça de près et tout ça a un lien avec la draft.
Bah oui, parce que
on aura le temps de reparler plus tard.
Bah la draft, tu sais, pas le moment d'en parler. Oui. D'autant qu'on a des gamins. Moi, j'ai pas envie de leur mettre une pression supplémentaire. J'ai un avis très précis là-dessus. C'est une draft qu'on va dire pour l'instant floue. Je pense que le tournoi NCAA peut changer les choses à la draft pour pas mal de joueurs. Parce que quand ces mômes-là, ils passent à travers ça, savoir jouer à la mort subite, c'est quelque chose. Être bon dans la mort subite, ça donne quand même un profil de joueur qui, s'il fait les efforts, pourra jouer au-dessus. Ceux qui sont bons à la March Madness...
On a pas mal d'exemples. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, vous pourrez retrouver du coup les deux prochaines rencontres de NCAA sur Bein, comme Rémi vous l'a dit. N'hésitez pas à commenter et liker ce podcast sur toutes les plateformes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, messieurs.
Merci à vous. Bonne fin de semaine.
Ciao.